Qui ici avait un surnom pendant son enfance? Ah, bah, dis donc, presque tout le monde, hein? Quelqu'un veut partager le surnom? Non? Je partage les miens, vous partagez le vôtre. Moi, j'avais deux. J'en avais deux. Un, c'était Petit Pomme de Terre. J'étais assez. Et puis l'autre, c'était Grands Yeux, parce que bon, c'est toujours un peu grand mes yeux, donc c'était. Quelqu'un d'autre? Allez, un surnom drôle, non? Y a pas? Boucle d'or. Ah, ça c'est chaud. Quelqu'un d'autre? Non. Titi? Ok. Titi. En fait, c'est. Certains surnoms sont souvent liés. Si tu veux lancer aussi les slides, sont liés souvent à un comportement ou à une apparence physique. Hein, parfois, on appelle les gens des surnoms pour quelqu'un qui est gros, quelqu'un qui est un peu plus fort que nous. Donc certains surnoms, nous les acceptons, et d'autres surnoms nous blessent. Nous avons envie de taper celui qui nous appelle par Petit Pomme de Terre ou, ou je sais pas quoi, mais en fait, moi, je connais des personnes dont je ne me souviens même plus le nom, le vrai nom de la personne, tellement on l'appelle par leur surnom. Donc, si tu me poses la question, elle s'appelle comment? Je sais juste le surnom, le nom en fait. Et puis, il y a aussi ce que nous appelons les stigmatisations. Les stigmatisations. Hein, les stigmatisations, c'est justement cet acte de critiquer une personne pour ses différences qui sont considérées contraires aux normes de la société ou qui sont contraires aux normes de ce que nous avons, de ce que nous pensons être correct ou être juste ou être comme ça. Hein, les stigmatisations, c'est justement cette marque ou ce tampon négatif d'infériorité accordée à un type de comportement, accordée à un type, à une apparence physique, accordée à une ethnie, à une nationalité. Par exemple, quand j'arrive en retard, on dit c'est à la brésilienne. Hein? Ça, c'est une stigmatisation. Hein? C'est une stigmatisation parce qu'on a un stéréotype que les Brésiliens fonctionnent. Hein? Donc, c'est une stigmatisation. Et puis, l'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire avec plein de stigmatisations et dont on ne connaît même pas l'identité, en tout cas le nom du personnage principal. Par contre, on connaît son titre. On connaît son titre. J'aimerais lire avec vous Luc, le chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 7. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et s'étend derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux et les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand les pharisiens qui avaient invité Jésus virent cela, ils se dirent en lui-même: si cet homme était vraiment prophète, il saurait que celle qui le touche, elle saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il le remit à tous de leurs dettes. Lequel des deux l'aimerait le plus? Simon répondit: C'est lui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit: Tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu n'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui qu'on la pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen. Voilà à mon avis, l'une des histoires, en tout cas l'une des rencontres les plus extraordinaires de Jésus. C'est une histoire de pardon, c'est une histoire de changement de paradigme, c'est une histoire de guérison, c'est une histoire aussi du salut. Du moins, c'est comme ça que l'auteur du texte conclut cette rencontre. Quand Jésus lui dit, il dit à cette femme, il dit, ta foi t'a sauvée, va en paix. Lorsque nous pensons au salut, nous pensons automatiquement à aller au ciel, n'est-ce pas? Nous avançons automatiquement, on pense au salut, on va au ciel après la mort. Par contre, dans la Bible, le salut est une idée beaucoup plus large que cela. Quoique c'est difficile d'avoir une idée beaucoup plus large qu'aller au ciel après la mort. Mais dans la Bible, il y a d'autres significats. Par exemple, dans la Bible, salut est une idée qui veut dire libérer d'une dette. Ou encore pardonner une dette, ou encore être délivré de la souffrance, ou être délivré, ou être guéri d'une maladie, être guéri d'une blessure ou d'une enfermité. Et aussi, nous trouvons dans la Bible le salut dans le sens qu'on le connaît, dans le sens d'aller au ciel après la mort, ou dans le sens d'une vie après la mort. Ainsi donc, de quoi cette femme ici avait-elle besoin d'être guérie? De quoi avait-elle besoin d'être délivrée, sauvée? D'un tas de choses, en fait. Elle avait besoin d'être sauvée de son péché, parce que le texte va dire qu'elle est quoi? Elle est une pécheresse. Et les pécheresses, ici, quand on les pécheresses, en fait, c'est un euphémisme pour dire prostituée. En fait, elle était une prostituée. Cette femme, elle était connue dans la ville pour être une prostituée. Elle était impure. Elle était un scandale pour toute la région. Elle était un scandale pour son contexte. Cette femme, elle avait une réputation qui la condamnait. Lorsque nous avons un péché public, lorsque nous avons une mauvaise réputation à cause de ce péché, nous avons une stigmatisation. Nous recevons un titre. Nous recevons une marque, nous recevons un surnom qui fait que nos vies soient privées de paix. C'est justement ce qui manquait pour cette femme, ce manque de paix. Le manque de paix produisait une immense souffrance pour cette femme-là. Elle n'avait plus de paix. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait plus de paix? À cause de son péché, à cause de sa réputation, à cause de toutes les stigmatisations qui l'entouraient, quoi. Elle n'avait plus de paix. Et dans une société, en tout cas dans notre société, qui est pleine de personnages, qui est pleine de personnes, qui existe plein de personnes qui sont aussi dans ces contextes-là, qui vivent une vie sans paix. Dans notre société, bon, on va réduire, peut-être que société, c'est trop large. On va réduire à notre auditoire ici. Hein, à nous qui sommes ici aujourd'hui. Il se peut qu'il y ait des personnes ici aujourd'hui qui ont une vie pareille, une vie sans paix. Une vie, pas forcément à cause d'un péché, pas forcément à cause d'une mauvaise réputation, pas forcément à cause de quoi que ce soit, mais tout simplement par le fait que tu n'arrives pas à trouver la paix. Ici aussi, dans cette histoire, cette femme, à cause de sa réputation, à cause des stigmatisations qui l'entouraient, sa limite de déplacement est réduite. Elle ne peut pas aller trop loin. Pourquoi? Parce que, à cause de son péché. Elle ne peut pas trop bouger parce qu'elle a une mauvaise réputation. Là où elle va, les gens vont la regarder bizarrement. Là où elle va, parce que les gens, elle est dans une société où elle a plein de regards accusateurs. Plein de regards accusateurs qui lui disent, tu n'appartiens pas ici. Tu n'appartiens pas ici. Ici, ce n'est pas ta place. Ici, ce n'est pas ta place. Il faut se rappeler aussi que Jésus, dans ce contexte-là, il est chez un pharisien, il est dans un banquet, dans un repas. Il a probablement d'autres invités, même les disciples de Jésus étaient peut-être. Et puis à cette époque, c'était très commun que ce genre de repas-là, que ce genre de banquet deviennent presque des spectacles publics. Hein, les gens riches, ils aimaient bien dresser leur table devant tout le monde, publiquement. Puis les gens restaient autour, ils admiraient. Ah, que c'est beau! Tellement de nourriture et tout, c'était presque une attraction touristique, quoi. Ils dressaient leur table là, devant tout le monde. C'était une attraction touristique. Ils allaient juste pour regarder. Hein. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, cela fait encore plus ou moins partie de notre culture. Par exemple, aujourd'hui, il fait beau. Hein, donc les restaurants, ils vont ouvrir leurs terrasses. Hein, ils mettent leur table au bord de la route. Ou boire un café, ils mettent leur table au bord du lac. Et puis, pendant qu'on est là en train de boire un café, il y a des gens qui se promènent autour. Hein, nous sommes là, nous sommes exposés dans un espace public, mais personne, en tout cas, dans une société normale, personne ne va rester autour de ta table pour écouter ta discussion. Hein? Personne ne va rester là, à tes côtés, en train d'analyser ce que tu es en train de manger. De ce que tu es en train de boire. Personne ne va rester là autour de ta table, s'éclater des rires de tes blagues que tu viens de raconter, ou de donner son avis par rapport à ce que tu viens de dire. Par contre, dans ce contexte-là, c'était très commun. Et c'est justement ce qui s'est passé ici, dans ce passage-là. Cette femme, elle n'a pas été invitée à la fête. Par contre, elle est là. Elle est une intruse. Et elle attire les regards des gens. Surtout le regard de Siméon, le pharisien. Parce qu'ici, le pharisien, il a un nom, n'est-ce pas? Mais pas la femme. La femme n'a pas de nom. Elle a un titre. La prostituée. La pécheresse. Et Simon, le pharisien, la regarde comme s'il disait, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Ici, ce n'est pas votre place. Vous n'appartenez pas ici. Vous vous prenez pour qui là, aux prostituées? Vous vous prenez pour qui? Vous êtes là en train de faire un spectacle, un scandale. Parce qu'une femme, hein, en tout cas dans ce contexte, elle devait toujours avoir ses cheveux attachés en public. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sèche les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle est là, elle remplit l'environnement de son parfum. Elle apprend la place. Et puis encore, à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas toucher un homme publiquement. Et encore moins une femme impure, pécheresse, prostituée. Donc cette femme-là, elle ne pouvait pas avoir tous ces privilèges. Ce n'était pas possible. Elle n'avait pas les droits. Justement parce que les stigmatisations ont justement créé ces barrières-là. Les stigmatisations sont ça, ce sont des titres, des marques que nous recevons et qui font que nous ne sommes pas très à l'aise en fonction d'où nous sommes. Ce sont des marques qui nous. Cela nous fait qu'on n'est pas à l'aise là où on est, on se sent que les gens nous regardent bizarrement, on se sent que les stigmatisations nous diminuent en tant que personne, nous diminuent et limitent nos relations. Et c'est justement ce qui s'est passé avec cette femme. Mais alors pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire tout cela? Tout simplement parce que cette femme ici, elle nous représente. Elle nous représente, chacun de nous. Elle représente nous tous qui, d'une certaine manière, avons reçu un titre, avons reçu une marque, une stigmatisation en fonction de quelque chose que nous avons fait, en fonction de quelque chose que nous avons fait dans notre passé, en fonction de notre histoire, en fonction de notre classe sociale, en fonction de notre ethnie, en fonction de notre nationalité, en fonction de notre apparence physique, en fonction de quelque chose, tout simplement un mot qui nous a été mis. Peu importe. Peu importe. Et je pourrais continuer à citer un tas de choses là. Nous avons reçu un titre, nous avons reçu une marque, et c'est à partir de ce titre que nous avons accepté comme étant des vérités pour nos vies que nous vivons une vie limitée. Nous ne nous sentons pas bien dans nos peaux, vous voyez? Nous nous sentons toujours inférieurs aux autres. Nous nous sentons toujours insécures. Nous ne savons pas nous donner de la valeur. Nous n'arrivons pas à regarder devant les miroirs et être en paix avec nous-mêmes. Parce qu'on nous a tellement posé des mots de par-dessus, on nous a tellement dit ceci, cela, on a tellement de regards accusateurs, tellement de... qu'on n'arrive même pas à nous regarder devant les miroirs en paix. Je ne sais pas si tu t'es déjà senti comme ça. En tout cas, si tu vois ce sentiment de ne pas appartenir, ce sentiment de ne pas être à ta place, ce sentiment de ne pas se sentir à l'aise. Moi, je me suis déjà senti comme ça. Et pire, vous savez, pire encore, j'ai accepté les regards des autres. J'ai accepté le regard des autres. Il se peut aussi que toi, tu aies déjà accepté le regard. Et tu as commencé à croire que les titres qu'on t'a mis, que les stigmatisations qu'on t'a données déterminent réellement qui tu es, déterminent ton identité. Et c'est là en train de justement voler ta paix. C'est là en train de voler ta liberté, ta paix, ton authenticité. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à se voir différents de l'autre sans se sentir inférieurs à l'autre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entrer dans une relation et se donner de la valeur. Elle est toujours inférieure. Elle est toujours la victime. Elle est toujours. Ce sont des gens qui ont justement accepté les stigmatisations et se sont laissés être déterminés par le regard des autres. Le regard de rejet, de désapprobation, de condamnation, de critique. Et afin de s'échapper de cet état-là, de pas de paix, de manquement de paix, elle s'est créée des masques. Elle a cultivé une fausse identité. Elles sont devenues un personnage, en fait. Pourquoi? Parce que la personne qu'elle est réellement a été rejetée. La personne qu'elle est réellement a été exclue. Alors elle développe un personnage. Elle vit son personnage dans la société. Elle se met des masques et puis c'est sa vie. Une fois, j'ai entendu un témoignage d'une femme colombienne. Colombienne, cheveux blonds, les yeux bleus. Voilà un peu les stigmatisations. On a l'impression que le Colombien, comme les Brésiliens, on n'imagine pas un Brésilien blond, les yeux. Et cette femme-là, elle était une Colombienne, cheveux blonds. Les yeux bleus. Elle racontait l'histoire qu'elle habitait aux États-Unis, hein, donc elle est née aux États-Unis. Et puis elle racontait l'histoire que quand elle avait environ 5 ans, pendant que sa maman lui brossait les cheveux, hein, pour aller à l'école, La maman orientait à sa fille de ne jamais dire qu'elle était hispanique. Elle orientait sa fille de ne jamais dire qu'elle était latine, qu'elle était colombienne. Et la maman lui disait, ma fille, dis toujours que tu es américaine. Parce qu'au moment où les gens sauront que tu es latine, ils vont te regarder différemment. Ils vont te regarder avec un regard du type, tu n'appartiens pas ici. Ici, ce n'est pas ta place. Donc, il faut mentir. Il faut mentir. Dis que tu es ce que tu n'es pas. Puis, vous voyez, après, je me suis mis à réfléchir à notre société d'aujourd'hui. Je me suis mis à réfléchir à nos vies, à nos réseaux de relations, à la Suisse, à la ville de Nyon, Duyé, Glan. Quelles sont les stigmatisations qui existent? Donc, nous allons faire un exercice maintenant. Nous allons faire un exercice. J'aimerais vous donner la parole. Dites-moi, quels sont les titres, quelles sont les stigmatisations qui existent dans notre société? Quels sont les titres que nous donnons aux autres qui jugent, qui condamnent les gens? Quels sont les surnoms que nous donnons aux gens qui génèrent de la souffrance? Suggestion. Appenzelloir. D'accord, ok. Les Portugais, voilà, les Portugais. Les frontaliers, ah, ça c'est bien. Bon, ça c'est bien, pas, hein, vous avez compris. Les Ritals, ok. Les Noirs, les Belges. Qui? Ah, les Suisses allemands. Les Voltaires. Les Français. Ruse. Fruse. J'arrive pas à prononcer, désolé, mais vous avez compris. Encore. Paysan. Paysan. Les Genevois. Mais laquelle des nationalités, des choses comme ça, n'a pas. Les musulmans, voilà, les musulmans, ouais. Les petits gros, la grosse, le petit. Qui? Les fribourgeoises, ok. Je vois que la Suisse est bien unie, hein, dis donc, là. Les ch'tis, voilà, ouais. Ça, c'est les Français du Nord, hein, ouais. Les British. Encore? Les homosexuels, les gays avec les Y à la fin, hein? Les nanas, ok. Je pense qu'on a bien, hein? On a bien les Brésiliens, hein? Moi aussi. Les Africains, les femmes, ouais, les femmes parfois, au monde du travail, ça peut être difficile, ouais. Ok, bon, je pense qu'on va. Il y a déjà pas mal, hein, là. Vous savez, c'est que parfois c'est triste. C'est que ces réalités-là, parfois elles se produisent, ou souvent elles se produisent dans les contextes de nos familles, du jugement pareil. Hein, c'est des garçons et des filles qui ne se sentent pas à l'aise, même chez eux. Avec papa et maman, à table. Ils sont récriminés par leurs propres parents, ils ont reçu un titre, le vaurien. Ou... Et puis ils vivent en déficit d'affection et d'amour. Et cela arrive aussi, vous savez où? Dans nos églises. Le corps du Christ, c'est qui est encore plus frappant, quoi. Et puis on revient à l'histoire. Et ce que je trouve impressionnant ici, chez cette femme, c'est son attitude active. Elle n'attend pas que Jésus vient la toucher. C'est elle qui va à la rencontre de Jésus. Elle n'a pas été invitée à la fête, mais elle y est quand même. Elle y va quand même. Et lorsqu'elle y est, quelque chose d'extraordinaire se passe avec elle. Et qu'à mon avis, cela devait se passer avec nous tous ici. Le fait que nous oublions qu'il y a des personnes qui nous regardent, soit pour juger, soit pour approuver, peu importe. Et nous regardons à Jésus, et nous avançons dans la direction de Jésus, et nous tombons à genoux devant Jésus. Nous versons les parfums autour de Jésus. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il ne va pas nous rejeter. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il ne va pas, il va nous accueillir. Il ne va pas nous dire, tu es impur, pas ici aujourd'hui. Nous oublions le regard et nous avançons vers Jésus parce que nous savons qu'il va nous accueillir. Amen. C'est pourquoi le texte lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ce que cette femme a fait, ce fut un vrai acte de foi. À un moment donné, elle a dit, je m'en fiche de ce que les gens pensent à mon sujet. Je m'en fiche. Si vous pensez que je suis une prostituée, si vous pensez que je suis une femme impure, ou encore que je n'appartiens pas ici, ou encore que je ne peux pas être aux pieds de Jésus, peu importe, parce que je sais que je peux. Et je sais que le pardon de Dieu est pour moi aussi. Je ne suis inférieur à personne. Je ne suis inférieur à personne. Je sais qui je suis. Et je suis une fille bien-aimée de Dieu. Je suis un être créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Alors peu importe si tu me vois impur, peu importe si tu me vois indigne, moi, je me vois à travers Jésus-Christ comme étant une personne pure et digne, et je vais venir et participer à cette fête. Amen. C'est ce qu'elle a fait. Un saut de foi, quoi. Ça, c'est un saut de foi. Cette expérience de regarder à soi-même à travers le regard de Dieu et à être en paix avec soi-même. Et ça, c'est difficile. D'avoir ce regard, d'apprendre à regarder à soi-même à travers le regard de Dieu et à être en paix avec soi-même. Et à dire comme ça, effectivement, je suis cela. Je suis portugais, je suis genevois, je suis frontalier, je suis noir, je suis homosexuel, je suis... Voilà tout ce que vous avez dit là, mais le pardon de Dieu, à un moment donné, il m'a atteint. Et je vais adorer Jésus, parce que je sais qu'il va accepter mon pardon. Je sais qu'il va accepter ma louange. Et ça ne sera rien de me discriminer, ça ne sera rien de me condamner, parce que je sais où c'est ma place. Donc j'aimerais vous inviter aujourd'hui à faire un saut de foi. J'aimerais vous inviter à oublier les regards accusateurs qui ont été posés sur toi. J'aimerais vous inviter à oublier les titres qu'on t'a donnés, à oublier les stigmatisations qui ont été mises sur toi et à faire un pas. Un pas en direction de Jésus-Christ. Ce que je trouve merveilleux aussi dans cette histoire, c'est qu'à aucun moment le texte nous dit que cette femme a cessé d'être une pécheresse. Il nous est dit seulement qu'elle a été pardonnée. C'est donc ma prière, c'est que notre Église soit une Église où les gens, quels qu'ils soient, qui qu'il soit, puisse tomber aux pieds de Jésus sans que personne le juge ou le regarde en disant, tu n'appartiens pas ici. Ici, ce n'est pas ta place. Ne commence pas trop à se sentir à l'aise ici, hein? Tu es un pécheur. Donc, j'aimerais t'inviter à faire un saut de foi en direction de Jésus. Parce qu'il va accepter ton parfum. Amen. Il va accepter ton parfum. Et ce fut justement cet acte de foi qui a guéri cette femme, l'a transformée. Alors mets-toi devant Dieu maintenant, devant Jésus, et dis-lui, j'aimerais rejeter les titres qu'on m'a donnés parce qu'ils ne résument pas ce que je suis. Je ne veux plus me sentir inférieur aux autres. Je ne veux plus me sentir à marge, en marge des autres.